Bienvenue dans The Debate. Alors, imaginez un peu le conseil d'administration d'une multinationale qui est vraiment au bord de la faillite.
Oui, une situation d'urgence absolue, quoi.
Exactement. Et pour valider le plan de sauvetage, il faut une majorité absolue. Mais la voix décisive se retrouve entre les mains d'un simple stagiaire qui passait par là.
C'est une métaphore assez frappante.
C'est pourtant exactement ce qui s'est passé en Grèce le 8 avril 1990. Après 10 mois de chaos politique, la nouvelle démocratie de Mitsotakis décroche tout juste 151 sièges sur 300. Et ça, c'est uniquement grâce à Theodoros Katsikis, l'unique député d'un tout petit parti.
Le fameux 151e siège.
Voilà. Moi, je soutiens que former ce gouvernement de la 11e heure, c'était un acte de responsabilité indispensable pour assurer les marchés.
Eh bien, je défends l'idée inverse. Je suis convaincue qu'imposer une austérité radicale avec une marge d'une seule voix, ça a surtout créé une dangereuse illusion de stabilité.
Mais enfin, il faut regarder la réalité en face. Cette nuit-là, le pays est littéralement à genoux. On sort de 3 élections successives sans aucun vainqueur clair.
C'est vrai, l'instabilité était chronique.
Et on a eu le scandale Koskotas, cette énorme affaire de détournement qui a décapité le gouvernement. La dette explose. Une 4e élection aurait juste précipité la faillite de l'État. Mitsotakis obtient presque 47% des voix.
Ce qui est énorme, oui.
C'est un raz-de-marée dans n'importe quelle autre démocratie. Donc, s'allier avec Katsikis, ce n'était pas un caprice. C'était la seule mécanique rationnelle possible pour stopper l'hémorragie.
Alors, je comprends votre point, mais le problème n'est pas ce score de 47%. C'est la façon dont ça se traduit concrètement au pouvoir.
Comment ça ?
Bah, avoir 151 sièges sur 300, ça permet de former un gouvernement sur le papier. Mais regardez ce qui s'apprête à voter. Des privatisations massives et un gel brutal des emplois publics.
Qui était absolument nécessaire.
Peut-être, mais essayer de forcer un changement de société aussi violent avec un seul siège de marge, ça donne à ce Katsikis un inconnu total, un droit de veto absolu sur tout le budget. Le gouvernement est en quelque sorte pris en otage à chaque loi.
Oui, mais cette vulnérabilité, c'est juste une illusion mathématique. Ça ne vient pas d'un manque d'adhésion des Grecs.
Ah bon ?
Vous trouvez ? Bah oui, c'est le produit de la loi électorale de l'époque. La prime majoritaire était tellement mal conçue qu'elle a artificiellement privé Mitsotakis d'une majorité confortable. Le mandat populaire était bien là, la moitié du pays voulait tourner la page.
Tourner la page. Honnêtement, si on regarde les chiffres dans leur globalité, c'est une toute autre histoire. Le premier ministre sortant, Papandréou, est au centre du scandale de la Banque de Crète. Il est même mis en examen.
Attendez, là je vous avoue que c'est une chose que j'ai du mal à saisir. Comment Papandréou a-t-il pu garder 123 sièges dans ces conditions ? C'est absurde que tant de gens votent pour un dirigeant sous enquête, non ?
Eh bien justement, ça prouve vraiment à quel point la société grecque rejetait viscéralement le programme de Mitsotakis. Les électeurs ont préféré soutenir un homme affaibli par les scandales plutôt que d'accepter cette purge économique.
C'est un choix assez particulier.
Oui, et ajoutez à ça les 19 sièges raflés par la gauche radicale, le pays n'a pas du tout tourné la page. La loi électorale a fidèlement traduit une nation est bien coupée en deux.
D'accord, je vous accorde que la fracture est bien réelle, mais la gouvernance ne peut pas s'offrir le luxe d'attendre un consensus parfait.
Bien sûr.
Les marchés financiers exigeaient des garanties le soir même de l'élection. Face à des créanciers qui allaient couper les vivres, quelle autre alternative avait Mitsotakis ? S'il ne présentait pas ce programme strict, les taux d'intérêt allaient engloutir la nation entière.
C'était une pression énorme, je l'admets.
Il devait prouver que le pays était encore gouvernable, quel qu'en soit le prix.
Le problème, c'est que l'austérité budgétaire, ce n'est pas juste une ligne sur un tableur Excel. Dans la vraie vie, ça modifie la distribution des richesses. Et ça déclenche instantanément la fureur des syndicats et des fonctionnaires.
C'est sûr, ça fait mal.
Et faire reposer la pression d'une inévitable grève générale sur les épaules d'un seul député, ce 151e siège, c'est suicidaire. Dès que la rue s'enflamme, la pression sociale sur cet homme devient totalement intenable.
Je reconnais que c'est un exercice d'équilibriste, mais je maintiens que parfois le rôle d'un dirigeant est d'accepter de marcher sur ce fil du rasoir institutionnel. Face à un abîme financier béant, on prend le risque d'avancer, même avec un seul siège d'avance.
C'était le prix de la crédibilité, selon vous ?
Exactement.
Et pour moi, cela revient toujours à confondre la victoire mathématique d'un soir avec la véritable capacité à gouverner un État. Une majorité d'une seule voix pour imposer des sacrifices historiques, ça finit toujours par céder sous le poids de la réalité sociale.
C'est vraiment tout le paradoxe de cette nuit d'avril 1990. Jusqu'où peut-on étirer la pure mathématique électorale avant qu'elle ne se brise face à la réalité de l'exercice du pouvoir ?
C'est une question qui reste d'actualité.
Tout à fait. C'est une réflexion fascinante sur la démocratie que nous vous laissons méditer.